Bonsoir. Merci d'être venus nombreux à cette invitation des cercles de formation de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'École des hautes études en sciences sociales pour cette deuxième séance que nous consacrons au travail et qui est intitulée « Les recompositions du travail ». Alors ce soir, nous accueillons Michel Lallemand. J'aurais dû commencer par Isabelle Ferreras quand même. Nous accueillons Isabelle Ferreras, Bernard Gazier, Michel Lallemand et nous avons la présidence et la modération de Stéphane Beau et je lui laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous avons une belle séance de travail exposée autour de cette question assez essentielle aujourd'hui, qui est celle des recompositions du travail. Donc je vais commencer par présenter les trois intervenants de la soirée, en commençant par Isabelle Ferreras, à ma droite. Donc Isabelle Ferreras est professeure de sociologie à l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et par ailleurs, elle a une convention de recherche avec Harvard aux États-Unis où elle a séjourné assez longtemps. Elle a fait plusieurs livres qui ont été assez importants auprès de Sciences Po, notamment sur un livre sur l'approche critique du travail et un dernier livre sur gouverner le capitalisme, pour la présenter rapidement. Ensuite, je passe à Bernard Gazier au centre, qui est professeur d'économie. Professeur émérite, comme on dit, c'est-à-dire qu'il vient de prendre sa retraite, mais juste avant la séance, il m'a bien précisé de dire émérite et tonique, c'est-à-dire qu'il est en pleine activité de son travail, et comme beaucoup de professeurs, de jeunes professeurs émérites, il a le temps aujourd'hui de se consacrer pleinement au travail. Donc c'est un économiste du travail, on pourrait dire, qui a aussi pour habitude, je pense que c'est important de le dire, de dialoguer avec les sciences sociales, avec les sociologues notamment, mais aussi avec les historiens, ce qui, comme vous le savez, n'est pas toujours courant chez les jeunes économistes. Donc Bernard Gazier appartient à cette génération d'économistes du travail qui ont appris pour habitude, et comme heureuse habitude, de lire ses collègues sur le travail dans d'autres disciplines. Et enfin, Michel Lallemand, qui est professeur de sociologie au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, dans cette chaire prestigieuse, la chaire d'analyse sociologie du travail, de l'emploi et des organisations, chaire qui, je crois, a été notamment occupée par Georges Friedman et ensuite Jean-Daniel Reynaud. Et il est par ailleurs chercheur au LIS. J'ai oublié de dire que Bernard Gazier était aussi chercheur au Matisse. Voilà, donc je vous donne un peu l'ordre, la manière dont va se dérouler cette séance. Dans un premier temps, donc c'est Bernard Gazier qui a présenté un travail en cours sur la crise de l'emploi, si l'on peut dire, avec des données à la fois macroéconomiques, principalement macroéconomiques. Donc c'est pour ça qu'il parle en premier, ce sont des données, on pourrait dire, de cadrage. Ensuite, Michel Lallemand va poursuivre un peu dans cette veine, mais avec un point de vue de sociologue, mais aussi avec un point de vue de comparatiste, puisqu'il a préparé quelque chose autour aussi des marchés du travail européens. Et enfin, Isabelle Ferreras va adopter une attitude plus micro, entre guillemets, mais tout aussi intéressante, autour de l'expérience du travail, de la crise du travail et des manières aujourd'hui peut-être de redonner des droits aux salariés. Donc chaque exposé va durer à peu près une vingtaine de minutes. Je suis à la fois président et modérateur, donc mon rôle sera de temps en temps, si besoin, d'interrompre gentiment les intervenants s'ils dépassent le temps qui leur est imparti. Merci à vous. Donc je cède la parole tout de suite à Bernard Gazier.
Bien, donc bonsoir à tous et à toutes, et j'ai donc le plaisir de commencer cette session. Et effectivement, il me semble logique de commencer par quelques données de cadrage, et le point de vue que j'ai adopté, je crois, permet cela, et permet peut-être après d'aller dans plus de détails, mais il y a quand même dans cette histoire de crise travail et emploi, d'abord à se renseigner sur quelques ordres de grandeur et sur la situation actuelle qui est, comme vous le savez, particulièrement désastreuse. Encore faut-il exactement dire en quoi, comment et jusqu'où. Alors, pour faire ça, je vous propose très très brièvement, en fait, de me centrer essentiellement sur l'Europe, mais pas seulement. Un tout petit peu aussi, je verrai quelques données sur les États-Unis. Et puis de venir à quelques éléments sur la France qui ne va pas bien et l'Allemagne, dont certains disent, voilà, le taux de chômage est à 5%, ils ont réglé leurs problèmes, et qu'en est-il? Voilà, donc je voudrais être sur cette affaire-là. Alors, je vais distinguer, comme vous le voyez, quatre temps qui sont extrêmement simples. Je vais d'abord partir de quelques données quantitatives. Je suis désolé, il va y avoir quelques graphiques, hein, mais mes intentions sont pacifiques. Hein. Juste quelques graphiques sur l'évolution chiffrée. Alors, l'Europe dans la crise, donc, elle amortit mais ne redémarre pas. Je crois que c'est ça le premier point. Ensuite, donc, un deuxième point, et là, je m'articulerai un petit peu, en quelque sorte, avec le propos suivant, puisque je verrai un petit peu quelques éléments de la variété des situations nationales, qui est extrêmement forte. Et puis enfin, j'en viendrai à quelques données plus brèves, de nature qualitative, qui là vont ouvrir un peu sur la question derrière l'emploi, le travail, hein, puisque derrière la qualité de l'emploi, il y a évidemment une des composantes de la qualité de l'emploi, c'est la qualité au sens très large du travail. Et donc on va ouvrir sur cela. Je le ferai de deux manières. D'une part en évoquant donc précarisation, polarisation, et puis qualité de l'emploi en elle-même, qui est déclinante, mais comme vous allez voir, avec un certain nombre de nuances. Alors, je commence par un premier graphique qui est d'une simplicité biblique et qui est tout de suite d'un pessimisme noir. En effet, vous avez deux choses. Vous avez en vert, c'est l'évolution de la production. Et donc, on voit très bien la contraction de la crise. Vous voyez, on est en dessous du niveau zéro. Donc, ça veut dire que la production se contracte. C'est pas seulement de la croissance ralentie, c'est de la perte de production. Ensuite, ça revient. Ça repart un peu, comme vous voyez, à partir de 2010. Mais ça repart extrêmement mollement et nous sommes à l'heure actuelle dans une sorte d'atterrissage, hein, quelque chose qui fait que, comme vous le savez, bien aujourd'hui la croissance en Europe est quasiment nulle. Alors nous en sommes là, mais évidemment ce qui est plus pessimiste pour notre propos, c'est la deuxième courbe qui a l'air de rien comme ça, la petite courbe bleue, parce que la courbe bleue c'est celle de l'emploi. Alors là aussi, vous avez des pourcentages, soit de croissance au-dessus du niveau zéro, soit des décroissances. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit une baisse plus modérée que celle de la production. Donc l'Europe a amorti la crise, très clairement. Hein. En gros, la baisse, vous voyez, de production peut aller jusqu'à 6%, ce qui est considérable. La baisse de l'emploi va jusqu'à 2% en moyenne pour l'Europe, hein, bien entendu. Et donc l'Europe a amorti ça. Alors c'est un peu décalé. Lorsque la croissance redémarre, l'emploi finit doucement par se redresser. Mais regardez ce qui se passe, à quel point c'est lamentable. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Vous avez une courbe quasiment au niveau zéro en ce qui concerne l'emploi. L'Europe ne crée plus d'emploi, disons-le, pour simplifier. Alors, voilà maintenant une autre courbe qui témoigne de la crise. Voyez que c'est une série de courbes qui portent sur le chômage. Alors, vous avez les deux courbes qui sont jaunes et bleues, qui sont les courbes de l'Europe, deux définitions possibles de l'Europe, l'Europe à 27 et la zone euro. Et puis, vous avez deux autres courbes. L'une qui est dans une sorte de rouge un peu brun, c'est les États-Unis. Et la bleue tout en bas, c'est le Japon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit avant la crise, vous voyez, là, on part en 2000 et on arrive à 2012. Eh bien, on voit qu'avant la crise, il y avait une sorte de hiérarchie extrêmement simple. L'Europe a un taux de chômage élevé qui baisse un peu en fin de période entre 2005 et 2007. Mais le taux de chômage européen est très élevé. En même temps, le taux de chômage américain et japonais sont très faibles. Alors, regardez la crise, toc ! On voit très bien la montée du taux de chômage américain, spectaculaire. La montée européenne qui est considérable, mais quand même moins spectaculaire, et la montée japonaise qui reste finalement assez modérée. Et puis, qu'est-ce qu'on voit après ? C'est ce que j'intitule « Brève rencontre hein, ». Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est redescendu. Alors, c'est pas magique. Hein, ils sont pas très contents chez Obama, mais c'est pas magique. Mais bon, ça redescend quand même. Et on voit l'Europe qui, elle, continue à s'envoler, évidemment, dans le contexte que je viens de rappeler. Alors, maintenant, j'en arrive à une variété de réactions par pays. Vous voyez, je vais pas passer beaucoup de temps sur ces données globales. Qu'est-ce qui se passe dans les pays ? Mais regardez, là, vous avez tout simplement des baisses ou des hausses de pourcentage d'emploi dans le choc initial. Donc, vous voyez, de 2008 à 2010, bon, ça dépend des trimestres, mais ça, ce n'est pas très important. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit certains pays qui ont créé des emplois. Hein, il y en a quelques-uns. Regardez, vous avez notamment la Pologne, hein, qui a créé des emplois, l'Allemagne qui a créé des emplois durant la période de choc, hein, la période la plus manifeste de contraction de l'activité. Et puis vous avez des pays, c'est l'effondrement absolu. Alors c'est les pays baltes hein, qui sont là avec moins 15, moins 20%. Et entre les deux, ben, vous avez toute une gamme avec quand même le Danemark qui est mal placé à côté de la Bulgarie et de la Roumanie et d'autres pays qui amortissent, notamment la France qui est au milieu. Alors ça c'est le choc initial. Vous voyez, le choc déjà diffracte des réactions très différentes. Il en va de même pour le chômage. Et là, vous vous souvenez du graphique que je vous ai présenté sur le chômage. Bien, voici maintenant le chômage avant la crise, regardez, avant 2008. Hein, une sorte de faisceau qui baisse doucement et qui n'est pas fabuleux du tout, mais qui baisse et puis qui finalement converge. Et puis alors, à partir de la crise, eh bien, une montée. Et puis, paf, regardez, une sorte de feux d'artifice. Hein. Vous voyez que ça diverge complètement. Alors, vous avez évidemment le taux de chômage qui s'envole dans les pays d'Europe du Sud. Peu importe ici le détail des nomenclatures, ce sont des regroupements de pays. Et vous avez donc l'Europe du Sud qui est en train de s'envoler, l'Europe du Nord qui va beaucoup mieux, etc. Vous voyez la divergence introduite par la crise. Alors, on retrouve cette divergence dans les taux d'emploi. Alors là, un autre graphique sur lequel je passe rapidement. Les petits points rouges, c'est avant la crise. Et les points bleus, c'est maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des taux d'emploi qui sont élevés avant la crise. Et puis, chouf, ça baisse. Hein, on dirait une sorte de piano, un peu, ici. Hein. À part que certains pays ont des taux d'emploi qui sont très faibles. C'est le cas de la Grèce, etc. Et avec un effondrement, c'est à peine si elle tient dans le tableau. Hein. Tout au bord. Et puis de l'autre côté, vous avez les pays très très élevés. Regardez la Suède qui a traversé tout ça. Et là, on arrive vers un jugement plus nuancé sur l'emploi. La Suède est restée au même taux d'emploi pendant la crise et maintenant. Temps plein, temps partiel. Là, un autre type de données, mais qui est important. Les taux d'emploi que je viens de vous indiquer, ce sont évidemment des taux d'emploi bruts. Or, évidemment, il faut tenir compte du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à temps partiel, voire très partiel. À ce moment-là, il faut raisonner en termes d'équivalent temps plein, et on peut calculer des taux d'emploi équivalents au temps plein. Ceux-ci sont évidemment plus faibles que les taux d'emploi bruts, et en même temps, voilà, ils se sont souvent contractés. Je donne quelques données ici, avec évidemment un cas particulier, c'est la Hollande, où, comme vous le savez, il y a énormément de temps partiel. Et du coup, en Hollande, l'écart entre le taux d'emploi brut et le taux d'emploi équivalent temps plein, il est de 18 points, 18%, c'est énorme, la moyenne européenne étant à 6%. Bref, tout ça se contracte, de toute façon, sauf, et nous allons y revenir, dans le cas allemand. Alors, avant d'en venir au cas allemand, un regard sur un pays qui traverse tout ça en sifflotant. L'Autriche. C'est un pays un petit peu agaçant. Voilà. Ils ont un taux de chômage de 4%. Alors, le taux de chômage, ici, on le voit bouger beaucoup. Hein. On le voit. Vous voyez, c'est l'échelle où il y a 5,5, 5,50, 4,5, etc. Mais attendez, il bouge entre 3 et 5%. Hein. Donc, il bouge sur rien du tout. Et puis, alors, vous avez l'emploi qui se voit de l'autre côté. Mais regardez, l'aimable croissance de l'emploi avec un petit palier dans la crise au bord du graphique. Il y a des gens. On ne sait pas très bien pourquoi ça marche bien, mais ça marche bien. J'en viens maintenant à l'Allemagne. Alors là, vous avez un graphique où c'est que des taux de chômage, mais vous en avez un paquet parce que vous avez la moyenne nationale et puis vous avez hommes et femmes. Peu importe, c'est assez simple. La France est au-dessus et le reste. Et il y a eu un moment là aussi où il y a eu une brève rencontre où, au moment de la crise, la France l'Allemagne avaient juste avant la crise le même taux qui commençait quand même à baisser, pas mal. Et alors, depuis la crise, regardez, depuis 2007-2008, on observe là aussi une divergence extraordinaire. L'Allemagne, ça continue à baisser, voilà. Et puis, la France, ça monte. Et comme vous le savez, c'est tout à fait désastreux. Alors, d'où vient le succès des Allemands ? Je pense que Michel et peut-être Isabelle auront l'occasion d'y revenir. Juste un petit graphique qui n'est pas très connu. Ce sont les vitesses de sortie des systèmes d'indemnisation chômage en Allemagne. Vous savez sans doute, en Allemagne, il y a deux systèmes d'indemnisation chômage. Il y a le système classique, qui est un système d'assurance. Je dirais que c'est pour les chômeurs normaux. Et puis, il y a une sorte d'énorme revenu minimum, une sorte d'énorme RSA, dont le montant est fixé aux alentours de 400 euros, avec un peu plus lorsqu'on met le logement. Et cet énorme RSA qui concerne 6 millions de personnes en Allemagne, eh bien, c'est aussi un régime d'indemnisation chômage, agressif, on pousse les gens vers l'emploi, etc. C'est quelque chose de tout à fait désagréable dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Alors on pourrait dire, oui, mais alors si on leur botte le cul, etc., tout ça, ils vont revenir vers l'emploi. C'est ça, le succès allemand. Eh bien, regardez les deux données. La donnée verte, c'est les chômeurs normalement assurés et indemnisés, ceux qui sont dans un régime tel qu'on l'a en France, etc. Et les autres, c'est ceux du super RSA. Bref, botter le cul aux chômeurs, ils ne reviennent pas plus vite en emploi. Le succès en Allemagne ne vient pas des réformes Hartz. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. En France, un graphique qui ne paie pas de mine, mais qui montre aussi qu'il n'y a pas lieu d'être très satisfait, c'est le pourcentage des premières embauches qui ont lieu, le pourcentage des embauches, tout court d'ailleurs, qui ont lieu en CDD. Eh bien, en France, vous voyez, c'est aux alentours de 70%, à part que depuis la crise, vous voyez, on voit très bien, 2008-2009, on est passé à 80% et on y reste. Donc il y a là quelque chose de très choquant, qui explique d'ailleurs une partie de l'accord interprofessionnel sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. J'en arrive maintenant à quelques dernières remarques. La France est la lanterne rouge de l'Europe pour ce qui est de la transformation de CDD en CDI. Regardez où on est. On est tout au bord, c'est la donnée la plus basse. D'autres pays arrivent beaucoup mieux à transformer les CDD en CDI. Si vous êtes en CDD pendant un an et que vous savez que l'année d'après vous serez en CDI, Écoutez, bon, ben, c'est peut-être désagréable d'être dans un emploi instable, mais enfin, c'est un horizon qui est socialement supportable. Si vous êtes comme en France, avec l'idée que vous n'avez qu'une chance sur cinq de passer en CDI l'année d'après, vous avez le sentiment d'appartenir à une génération condamnée. Et donc là, on a devant nous, non pas une explication, hein, mais l'image du blocage français. J'en viens maintenant à deux données qualitatives, et je vais m'arrêter là. Première donnée qualitative, là, vous avez des graphiques différents qui vous présentent l'évolution de l'emploi par bloc de 20%, ce qu'on appelle les quintiles. Et les quintiles, ce sont des blocs de 20%. Le premier que vous avez, c'est les moins bien payés, ensuite ceux qui sont un peu plus payés, et puis le dernier, c'est ceux qui sont super payés. Alors là, vous avez deux types de données. Vous avez des données pour la crise elle-même dans le cœur de sa violence et des données plus récentes sur ce qui s'est passé depuis 2 ans. Alors regardez, si vous êtes très très peu payé, il y a une petite perte d'emploi. Si vous êtes moyennement payé, clac, l'emploi là se démolit complètement. Et si vous êtes très bien payé, eh ben dans la crise, l'emploi continue à augmenter, bravement, vous avez ça. Donc c'est ça la polarisation des emplois, et vous voyez, on la retrouve un petit peu atténuée dans le deuxième graphique. Alors je termine, et ce sera ma dernière donnée, je suis un peu confus de vous assassiner de graphiques, mais je crois que bon, ils disent des choses. Alors, qualité de l'emploi. Alors, en matière de qualité de l'emploi, ben là, vous voyez, vous avez deux colonnes, une colonne bleue, une colonne rouge. La colonne bleue, c'est 2005, c'est avant la crise. La colonne rouge, c'est juste après le moment le plus violent de la crise. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit différentes dimensions. Ça a été mesuré par des index. Il faudrait revenir sur le détail pour aller plus loin. Mais bon, différentes dimensions de la qualité. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben regardez, prenez les salaires, wages, le premier. Eh bien, ce que vous avez, évidemment, c'est une baisse. Hein, et voilà, les salaires se contractent en moyenne, etc. Maintenant, vous avez l'évolution du travail non standard. Et là, alors là, il y a eu une inversion pour qu'on voit bien la dégradation et non pas la multiplication des emplois précaires. Donc là, on voit une baisse. Ensuite, vous en avez deux qui montent. Alors là, tout d'un coup, on se dit, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Faut bien regarder. Regardez, vous avez temps de travail, working time, et puis WLB, c'est work-life balance, c'est-à-dire l'équilibre entre travail et temps de travail familial, personnel, domestique. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une amélioration. Et l'amélioration, elle se comprend très bien. Imaginez l'Espagne où les CDD ont été décimés au début de la crise. Bah, c'était des emplois de plus mauvaise qualité que les autres, ils étaient plus vulnérables. Et donc, c'est un effet apparent qui est très visible à l'heure actuelle, mais qui ne va plus l'être, à mon avis, en 2011-2012. Il en va de même pour les conditions de travail. Regardez, il y a une amélioration des conditions de travail. Le rouge est plus gros que le bleu, hein, sur working condition et job security, et même la sécurité de l'emploi. Vous voyez, hein, il y a un peu un malentendu. Et puis les derniers, en revanche, sont en baisse. Et finalement, globalement, c'est une baisse. Donc, vous voyez, il y a aussi des trompe-l'œil. Il faut bien regarder ce qu'on mesure quand on établit les choses. Voici maintenant ma diapo de conclusion. Alors, je n'ai fait que vous donner quelques éléments pour vous suggérer la variété des situations actuelles. Je crois qu'on peut dire que dans toute crise, il y a 3 effets qui s'enchaînent, le dernier étant le plus hypothétique et les 2 autres étant très visibles. Il y a un effet choc. Vous avez des revenus qui s'effondrent. Vous avez une propagation de la finance à l'économie, de l'économie au social, du social au politique. Ça, c'est l'effet choc. Vous avez ce premier effet. Vous avez un deuxième effet qui est un effet révélation. Alors là, je vais partir d'une phrase d'un milliardaire assez pittoresque qui s'appelle Warren Buffett. Et Warren Buffett a dit ceci, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient tout nus. Alors cette formule, lui, il l'applique aux entreprises. Il dit les entreprises mal gérées s'effondrent dès qu'il y a une vraie difficulté de type crise. Et les autres, éventuellement, tirent avantage. Donc lui, il le lit comme un businessman. Moi, je vous propose de le lire comme une réflexion bien plus générale. Ça révèle aussi le degré de solidarité et de capacité de riposte des sociétés. Hein. Et donc la crise est un révélateur formidable, soit des capacités de riposte, soit au contraire des difficultés. Prenez la crise de Chypre dans laquelle nous sommes, qui est un révélateur de la tolérance des paradis fiscaux, enfin on pourrait continuer, c'est un processus de révélation. Et alors derrière cela, il y a souvent des processus d'accélération, souvent mais pas toujours. L'accélération, ça consiste à faire des choses qu'on considérait comme nécessaires et qu'on avait indéfiniment différées. Bah, c'est un peu le cas du fait de s'attaquer aux paradis fiscaux. Ça fait quand même longtemps qu'on y pense. Désormais, il semble que ce soit sur la table. Alors, ça fait déjà 2 ans que c'est sur la table. Bon, hein, l'accélération est lente. Enfin bon, sait-on jamais. Ça pourrait bien marcher. Alors, je termine par 3 remarques. Scepticisme sur les politiques publiques de l'emploi. Oui, je n'en ai pas parlé. On dépense de l'argent, bien sûr, pour indemniser les chômeurs, et c'est bien nécessaire, et c'est fondamental. On dépense aussi de l'argent pour mieux les placer. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a une forme de relatif scepticisme sur l'effet de ce genre de mesures. Et donc, ça fait partie du débat d'aujourd'hui par rapport à d'autres périodes où on était moins sceptique. Autre chose, et ça, peut-être, Michel aura l'occasion d'en reparler, il y a une pression permanente des marchés financiers, de la surveillance, etc., pour faire des réformes pro-libérales, notamment en Europe. Vous savez que l'Europe a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle est en elle-même une mini-mondialisation. La mondialisation, c'est l'interconnexion des marchés. L'Europe fait ça dans son propre cadre, qui est quand même plus modeste que le cadre mondial, et l'Europe, aujourd'hui, semble avoir le génie pour accumuler un certain type de pression qui est à la fois celle des marchés et celle de la technocratie, qui est une ambiance assez déplorable. Enfin, dernier point, pour terminer sur un point peut-être de perspective de solution, alors quoi ? Peut-être un retour à la croissance, oui, bien sûr, bon, on en parle beaucoup. Quelle croissance ? Sera-t-elle polluante, pas polluante ? Vous avez des tas de réflexions là-dessus. Il me semble que de toute façon, l'horizon est un horizon de croissance ralentie, et si c'est ça, il faut s'y adapter. Et si vous voulez vous adapter à la croissance ralentie, il n'y a qu'une seule solution, ça s'appelle le partage du travail. C'est ce qui s'est très mal passé avec les 35 heures, c'est ce qui pourrait mieux se passer si on organise des mobilités, des transitions, qui à la fois permettent aux gens de faire des choses qui sont importantes pour eux, et permettent de se former et d'être tonique dans ce partage. Donc quelque chose qui ne serait pas malthusien, mais à mon avis, c'est l'horizon vers lequel nous allons désormais. Merci de votre attention.
Bonsoir à tous. Donc, sans transition, on va atterrir ici dans des considérations qui ont trait à une des recompositions qui touche au travail et à l'emploi, qui est celle de la tertiarisation de l'économie. La tertiarisation, donc le fait que l'on va passer, que nous sommes passés d'une économie industrielle à une économie de services. Et donc je vais concentrer l'essentiel de mon propos sur ce phénomène de tertiarisation de l'économie, la flexibilité que notre modèle économique aujourd'hui implique, et je vais aboutir à des réflexions en termes de participation des salariés au pouvoir dans l'entreprise. Alors, voilà les deux pieds sur lesquels je vais essayer de marcher avec vous. Dans les 20 minutes qui me sont imparties, je pense que j'ai un tout petit peu trop d'IA, donc il y en a l'une ou l'autre que je supprimerai sans doute. Donc, premièrement, parce que lorsque Bénédicte Zimmermann m'a contactée pour m'inviter, elle m'a invitée à essayer de pointer un facteur de transformation de l'économie en cours. Et donc, nous allons là venir à cet enjeu de la tertiarisation, donc de la transformation en fait du modèle productif de référence de nos économies européennes, les transformations du travail que cela implique, pour ensuite, articuler ce facteur de transformation à un enjeu, un défi qui concerne aujourd'hui le monde du travail et le monde de l'emploi, parce que c'est intimement lié, qui est la question des droits des salariés dans cette économie qui n'est plus la même économie que l'économie industrielle que l'on connaissait précédemment. Et donc, on va atterrir sur une question qui est qu'est-ce qu'au fond une entreprise capitaliste, quelle est la meilleure manière de la définir, et une proposition pour essayer de faire vraiment travailler l'analyse jusqu'à mettre l'analyse en si vous voulez, en format de proposition, pas parce que c'est nécessairement la meilleure, mais parce que c'est une proposition qui permet la réflexion. Donc, le modèle productif de référence actuel. Alors, je vous invite à regarder deux transformations qui sont massives et qui sont peu regardées quand on essaye de comprendre la nature de la crise à laquelle on a à faire face aujourd'hui, finalement. D'une part, on est passé d'un modèle productif qui était dominé par le secteur industriel à un modèle productif qui est dominé par le secteur des services. Aujourd'hui, on est à plus de 70% de l'emploi dans les services, dans le monde occidental, mais nous sommes dans des pays comme la France à plus de 80%. Et de part de l'emploi dans les services, mais aussi de contribution au PIB. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça implique que le modèle productif a été considérablement transformé. On ne fait plus la même chose dans une économie de services que ce que l'on faisait dans une économie industrielle. On avait une économie qui était basée sur la production de masse, donc où il y avait une emphase sur l'offre, nous sommes passés à une économie, qui est l'économie que nous connaissons aujourd'hui, qui est une économie flexible, c'est un terme que tout le monde connaît, où l'offre, cette fois, s'adapte à la demande. En termes de transformation du travail, maintenant, j'aurais pu reprendre aussi une DIA du monde du travail industriel pour contraster avec le monde du travail des services aujourd'hui. Quel est l'impact de cette transformation du modèle productif de référence, si vous voulez. Il y a une transformation majeure qui consiste en ceci, à identifier le fait que l'on passe d'un travail que l'on pouvait qualifier comme isolé, d'un point de vue de, disons, du point de vue de la sociologie du travail, c'est-à-dire que si vous pensez à une figure tutélaire du travailleur dans l'économie industrielle, par exemple, le travailleur à la chaîne qui boulonne des voitures sur la chaîne automobile, eh bien, il est isolé dans le sens où il a des collègues très bien identifiés, il a un supérieur hiérarchique bien identifié, il est dans un monde qui ne change pas au quotidien du travail. C'est un cadre qui est constant. Ça n'est plus du tout le cas de l'expérience que font les salariés aujourd'hui dans une économie de service. Aujourd'hui, ce qui est, à mon sens, vraiment clé, c'est de voir que la présence du client sur le milieu de travail est en train de transformer l'expérience même de travail. On travaille au contact avec la clientèle. Et cela, que vous soyez une infirmière, un caissier, un banquier, un avocat, un médecin, un enseignant, même un consultant informatique. Donc, que vous regardiez à tous les professions de l'économie de service, vous allez retrouver dans la journée de ces personnes un moment ou tous les moments de confrontation avec un autre humain, ce tiers qui est le client sur dans l'espace de travail. La conséquence de cela, c'est que c'est une proposition, c'est que en termes d'expérience du travail, si vous voulez, on va retrouver au travail les attentes typiques de l'espace public. En particulier la convention d'égale dignité. C'est-à-dire, pour la personne qui travaille, elle va faire de moins en moins la différence entre rencontrer quelqu'un parce qu'il est un client et rencontrer quelqu'un dans la rue, dans un espace public, que ce soit la rue, une gare, que sais-je. Et elle va mobiliser les conventions, si vous voulez, donc la culture, qui est la culture de l'espace public dans le travail. À tel point que je propose de dire que travailler, au fond, aujourd'hui, travailler dans une économie de service, c'est prendre part à la sphère publique. Qu'est-ce que ça veut dire pour essayer de le dire mieux? Ça veut dire qu'on peut essayer de résumer les choses, si vous voulez, en disant qu'il y a une espèce de lutte d'influence qui se joue quant à le cadrage de ce qui se vit au travail. Et de nouveau, je me place du point de vue des gens qui travaillent. En même temps, le monde du travail est pétri, si vous voulez, d'une normativité qui est héritée de la sphère privée, d'un espace domestique qui est celui de l'entreprise où le pouvoir appartient à ceux qui... Pardon, excusez-moi, j'espère que je touche beaucoup ce micro, donc je ne vais pas vous casser les oreilles, mais je parle avec mes mains et ce monde du travail est, si vous voulez, est mis en forme selon les règles de d'un ce qu'on peut appeler un régime domestique, c'est-à-dire un régime où le domus, le maître de maison, qui est le représentant des actionnaires, en fait, le manager, ben, décide de ce qui doit se faire et comment ça va se faire. Et quand vous signez un contrat de travail, vous souscrivez à un principe de subordination, vous êtes subordonné, hein. Et en même temps, le monde du travail contemporain est ce monde du travail qui vous confronte sans cesse en tant que salarié à la confrontation avec cet autrui qui est le client, par rapport auquel il n'y a pas de raison, en quelque sorte, que vous ne mobilisiez pas votre culture d'égalité démocratique, de citoyenneté, si vous voulez, dans le cadre d'une économie de service qui est une économie, et je parle bien de nos sociétés européennes en particulier, une économie qui fait partie de sociétés à culture démocratique stabilisée. Et cette culture démocratique, elle a, si vous voulez, un impact aussi dans le travail. Et donc, voici la proposition, c'est de voir que l'expérience du travail aujourd'hui est tiraillée entre ces ce qu'on peut appeler des régimes d'interaction en termes sociologiques, ces deux régimes d'interaction, ces deux ensembles de normes qui vont cadrer les interactions entre les personnes. À la fois, vous allez avoir cette injonction du côté de l'entreprise, des représentants de l'entreprise qui vont dire ben, « Vous êtes au service du client, le client est roi, il faut exécuter sans qu'il soit, sans que ça ait du sens même de penser que vous auriez votre mot à dire sur ce qu'il y a à exécuter. » Et en même temps, en tant que citoyen au travail, eh bien, vous estimez que vous avez quelque chose à dire sur la vie au travail qui vous concerne, qui pose une série de problèmes en dehors du travail, comment vous organisez votre vie privée et comment vous vivez au travail avec vos collègues. Donc, une manière un peu plus précise de définir ça, si vous voulez, d'essayer d'identifier ce problème, parce que ça représente un problème aujourd'hui et qui est un défi politique, à mon sens, majeur, c'est de parler du caractère politique du travail. Si on regarde les situations de travail aujourd'hui, elles sont définies, comme je le disais, par la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire flexibilité des horaires, flexibilité fonctionnelle. Hein. Vous allez participer vous participez à différents projets qui vont se succéder dans le temps. Vos collègues ne vont pas toujours être les mêmes. Vous allez devoir vous adapter à de nouveaux collègues. Vous allez devoir vous adapter à des nouveaux horaires. Et cela à une cadence qui peut être extrêmement rapide, voire des changements au quotidien. Cette flexibilité, à mon sens, elle est mieux analysée comme étant une expérience de positionnement dans des collectifs. On a tendance en sociologie à voir la flexibilité comme une expérience de l'individualisation. Certes, c'est cela dans le sens où il y a une individualisation des parcours. Vous n'avez plus dans une entreprise deux personnes qui ont exactement le même horaire, qui sont exactement, qui remplissent exactement la même fonction, etc. Mais par le fait même qu'il y a cette flexibilité, pour que le travail soit efficace, vous devez sans cesse vous positionner par rapport à vos collègues. Et cette expérience de ce positionnement fait que les salariés se retrouvent dans une expérience de positionnement dans des collectifs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que quand on étudie ce que les gens disent par rapport à leur travail, on entend des arguments qui sont donnés en termes de justice. C'est juste, c'est injuste. Si vous voulez, la manière de rendre compte de la perception par les salariés de leur expérience de travail que je vous propose ici, c'est de voir que finalement la grammaire fondamentale du travail, c'est une c'est la grammaire de la justice. Il y a et cela va des tout petits problèmes du travail. C'est-à-dire comment on va se partager un horaire, qui peut aller en formation, mais c'est pas du tout des problèmes bénins pour les individus, des petits enjeux individuels comme ceux-là, disons, jusqu'au grand conflit du travail, annonce d'une restructuration, fermeture d'une entreprise, etc. On va entendre au fond un argument de type c'est juste, c'est injuste pour telle ou telle raison. Et que si vous prenez vraiment au sérieux ces deux faits-là, vous avez l'idée de l'expérience politique du travail, c'est-à-dire le fait que le travail ne correspond en rien à une expérience instrumentale comme une certaine économie classique veut le faire croire, c'est-à-dire que le travail est une réponse et est motivé par le salaire, mais l'expérience de travail, elle, est mieux comprise comme étant une expérience qui mobilise les conceptions sur la justice dans le cadre d'une inscription dans le collectif. Et le collectif sans fétichisme, ce n'est pas le collectif d'il y a 50 ans où il était évident, on avait même une photographie évidente de qui étaient ses collègues de travail, ce n'est pas ça, mais c'est le collectif au sens d'une référence par rapport à d'autres personnes qui travaillent, d'autres salariés. Il n'y a pas que moi au travail. Toute personne qui travaille sait qu'il n'y a pas que elle qui travaille et elle est sans cesse en train de se positionner par rapport à autrui. Alors, ça m'amène à une proposition analytique plus critique encore, c'est de voir que finalement dans cette expérience politique du travail, si on prend au sérieux ce qu'on entend dans le témoignage des salariés, et je n'ai pas eu le temps de le préciser ici jusqu'à présent, mais donc j'ai principalement travaillé sur le cas des caissières de supermarché. Mais ensuite, depuis plusieurs années, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une enquête sur 9 pays de salariés dans différents secteurs économiques et avec différents niveaux de formation, etc. Et tout cela converge en termes d'analyse, même si cette dernière partie, l'analyse de cette grande base de données-là, je ne l'ai pas encore publiée. L'idée, c'est que, si vous voulez, au-delà de ces conceptions que chacun peut tenir sur ce qui est juste, injuste au travail, on va retrouver une conception, si vous voulez, une méta-conception qui est ce que j'appelle la conception de la justice démocratique. C'est-à-dire l'idée que les personnes concernées devraient pouvoir participer à décider des conditions de leur mise au travail. Et donc l'idée que la procédure qui devrait déterminer les normes qui vont s'appliquer au travail, et vous pouvez voir le travail comme une addition de ces normes, eh bien, ces normes devraient être prises en donnant la capacité aux gens qui sont concernés par ces normes de pouvoir peser sur leur choix. Évidemment, c'est pas du tout ce qui est la réalité du monde du travail, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce graphe tout à l'heure qui vous montrait un peu ce conflit entre deux types de cadrage normatif du travail, un cadrage où le domus ou le chef d'entreprise ou le manager au nom de son principal va décider la règle qui va s'appliquer, et puis il y a un cadrage qui est plutôt un cadrage de type sphère publique dans le cadre démocratique où il y a une égalité qui est reconnue à chacun pour participer à décider de la norme qui va présider à l'organisation effective du milieu de travail. On pourrait dire un mot sur l'innovation, mais je pense que j'ai pas le temps d'en parler. Là, j'ai encore 5 minutes, c'est ça ? Voilà. Donc, je ne vais pas parler d'innovation, mais Parce que donc là, je vais faire sans doute ce que vous allez entendre de ma part. C'est plutôt un argument en termes de justice, un argument normatif. Mais on peut aussi tirer un fil ici qui est un fil quant à la critique de l'efficacité de notre modèle économique. Parce que il va devenir, si vous voulez, pour le dire vite, l'idée c'est qu'il est de, il va être de moins en moins efficace de gouverner les lieux de travail de la manière dont on les gouverne aujourd'hui, c'est-à-dire via un cadrage domestique. Et il va être, cela va être de moins en moins efficace parce que la clé de la productivité de nos entreprises, c'est elle réside dans sa capacité d'innovation. Et qui est capable d'innover? Pas vos chaises, pas vos logiciels, pas votre matériel. C'est vos individus, ceux que vous avez embauchés, ceux qui sont capables de trouver des solutions aux problèmes que leurs clients vont leur poser. Dans le cas d'une économie service, le siège de la capacité d'innovation, il se trouve chez les salariés. Donc maintenant, je voudrais en venir à ce défi qui est posé par cette expérience politique du travail, si vous voulez, cette attente de participer aux conditions de la mise au travail, qui est une attente qui va monter de plus en plus clairement dans le cadre d'une économie de service et qui aujourd'hui confronte le modèle de gouvernement du travail dont nous héritons, qui est hérité de cette économie industrielle qui n'est plus l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui en train de d'opérer. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste? Pour le dire de nouveau très très vite, l'idée, si vous voulez, c'est que donc, si on prend au sérieux cette expérience du travail comme mieux définie comme étant une expérience politique du point de vue du salarié, avant d'être la source d'un revenu, mais au-delà de la question du revenu au quotidien du travail, c'est cette expérience politique, cette mobilisation des conceptions sur la justice qui semble dominer. Eh bien, alors, vous devez conclure qu'une entreprise capitaliste, c'est la combinaison de deux logiques, si vous voulez. D'une part, la logique de celui qui investit son capital dans l'entreprise, qui est une logique que l'on peut reconnaître comme étant une logique instrumentale. Le capitaliste investit en perspective d'un profit, d'un retour sur investissement. L'entreprise est l'instrument du profit. Mais il n'y a pas que ça dans une entreprise. Comme je l'ai dit, il y a ce salarié dont la rationalité, si vous voulez, est mieux définie comme n'étant pas de type instrumental, même si bien sûr le salaire est fondamental. Et par exemple, je n'ai jamais rencontré une seule caissière qui n'était pas au travail parce qu'elle avait besoin d'un revenu. Mais en même temps, une fois qu'elle est au travail, il se passe bien plus que la motivation pour le revenu. Et au quotidien du travail, ça ne sature pas la compréhension qu'on peut avoir de son expérience de travail. Et donc le travailleur, le salarié, est mu, lui, par ce qu'on peut résumer comme une rationalité politique. Et donc, ça vous donne une image d'emblée d'une entreprise comme étant la combinaison de deux rationalités, qui, en fait, font le succès de l'entreprise. Je ne dis pas ici que il faudrait que de la rationalité politique ou que de la rationalité instrumentale, mais je dis, au fond, on a cru que l'entreprise capitaliste, c'était le déploiement de cette rationalité instrumentale. Ça ne suffit pas pour expliquer le succès d'une entreprise. Et si vous regardez des entreprises qui fonctionnent bien, si vous regardez des entreprises dans lesquelles il y a un haut taux de satisfaction de la part des salariés, c'est en fait parce que d'une manière ou d'une autre, cette rationalité politique, ces conceptions sur la justice des salariés sont respectées plus ou moins, mais sont prises en considération. Donc l'idée, c'est que l'entreprise, si vous voulez, l'entreprise devient une institution politique et pas une simple organisation économique. Et une institution politique qui devrait être fondée sur la reconnaissance de ces deux rationalités. Et donc la reconnaissance des deux acteurs, si vous voulez, qui portent ces rationalités. Ce que j'appelle investisseur en travail et apporteur en capital. Ça, c'est le schéma de l'entreprise capitaliste actuelle. Et vous voyez, en fait, le schéma d'une entreprise qui est mue par une logique, la rationalité instrumentale, et où l'on penserait que ça suffit à définir ce qui est ce qui se passe dans une entreprise. Au nom de cette rationalité instrumentale, les actionnaires sont considérés comme étant les meilleurs représentants de cette logique-là. Et donc, il est normal que ce soit les actionnaires qui déterminent qui sont, via leur délégation au sein du conseil d'administration, qui sont les managers, si vous voulez, de l'entreprise, c'est-à-dire les membres du comité exécutif. Parce que ces gens n'auraient que à déployer cette rationalité instrumentale. Mais c'est une version tout à fait primaire et si vous voulez, incomplète de ce qu'est une entreprise. Ce qu'est une entreprise, c'est plutôt, donc, comme je le disais, la combinaison de deux logiques, la combinaison de deux rationalités. Et donc, ça devrait vous donner... Donc ici, je décroche, c'est une proposition. Il n'y a rien du monde réel en tant que tel qui ressemble à ça. Mais ça devrait être une institution qui donne voix, si vous voulez, de représentation à ces deux logiques. Parce que ces deux logiques font son succès et font sa réalité. Et donc, en face de cette assemblée générale des actionnaires, vous devriez trouver cette assemblée de ceux qui investissent leur personne dans le travail, qui auraient le même droit que les actionnaires à élire les membres d'une chambre des représentants, des investisseurs en travail cette fois, et pas des apporteurs en capital, comme c'est le cas des conseils d'entreprise ou des conseils d'administration, pardon, ou des conseils de surveillance, et de faire alors du gouvernement de l'entreprise au sens de l'exécutif un comité exécutif représentant de redevable, si vous voulez, devant les deux chambres de l'entreprise, des deux composants de l'entreprise. Ce gouvernement responsable, donc, devant les deux chambres, donc, cette proposition bicamérale. Alors, là, j'ai encore une minute.
Pour conclure,
voilà. Donc, je vais aller vraiment au bout de mes dias. Donc, pour conclure, parce que je n'ai pas bien pu défendre ma proposition là, mais c'est d'abord de ma faute. Hein. Je n'essaie pas de rejeter la responsabilité. Mais donc, le diagnostic sur la crise actuelle et sur les transformations de l'emploi et surtout du travail. J'ai parlé du travail qui font suite à ce passage d'une économie industrielle à une économie de services. On peut les diagnostiquer comme un état de souffrance sociale, si vous voulez, qui est considérable. Et en effet, on a tellement entendu parler de souffrance au travail. Vous êtes un pays dans lequel ont été médiatisés beaucoup les suicides sur les milieux de travail. Les gens souffrent de la privation de travail, hein, du chômage, jusqu'au trop-plein de travail, burn-out, etc. La conséquence, il y a un coût de non-productivité qui est considérable, parce que la non-productivité est due à l'hétéronomie dans laquelle se trouvent les salariés au travail. Hein, vous avez cette attente de pouvoir participer aux conditions, de déterminer les conditions dans lesquelles vous vivez au travail et puis l'impossibilité de le faire. Et ce n'est pas, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ce n'est pas parce qu'il y a du droit social qui est fort développé dans des pays comme la France ou la Belgique, mais qui n'est qu'un embryon de droit par rapport à ce que serait une véritable citoyenneté au travail. Le travail que font les organisations syndicales est considérable, mais est absolument insuffisant par rapport à cette attente. Il y a aussi une conséquence en termes de santé démocratique générale, si vous voulez, parce que le diagnostic est le suivant. C'est un état de dissonance, si vous voulez, de décalage entre la réalité, hein, cette forme de despotisme au travail, et les attentes de participation dans le travail. Et la seule manière de sortir, si vous voulez, de cet état de dissonance, c'est de confronter ce qui peut s'appeler une contradiction capitalisme-démocratie. Et il y a deux voies pour en sortir. Soit vous allez vers plus de despotisme et vous dites qu'il y a déjà trop de droits où les salariés doivent continuer à être de plus en plus flexibles et ce sera enfin qu'ils soient les plus efficaces au travail sans qu'on leur demande leur avis, ou bien vous avez une voie qui est la voie de la participation démocratique, qui me semble la seule voie raisonnable, étant donné, même outre les questions normatives, les questions de justice, mais étant donné la nature même de l'économie du modèle productif auquel nous avons affaire aujourd'hui. Il n'est plus du tout efficace de mettre les gens au travail comme des moutons, si vous voulez, et vous avez besoin que l'entièreté de la personne soit mobilisée pour répondre et résoudre les problèmes qu'un client a, et pour ça, vous devez prendre l'individu au sérieux. Et donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.